quoi. Bonne écoute.
Il y a en nous tous à la naissance que d'aucuns transforment selon leurs élans. Pour ce qui me concerne, la boucle est bouclée depuis très longtemps. Et je voulais simplement démontrer par là que c'était aussi une des formes de l'amour. Qu'il n'y avait pas de mal à ça. Elle est là parce qu'elle est adressée aux femmes.
Bon. Bonjour, flemmardise et réveille-mot ne trouble pas ma sieste, avec comme indicatif exceptionnel une des plus belles chansons de Catherine Ribeiro. Et aujourd'hui, nous allons célébrer, je ne sais pas si le terme convient, le centenaire d'un grand poète, Armand Gatti, avec un invité tout aussi exceptionnel, Jean-Marc Luneau. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Florence.
Eh bien, je ne sais pas si tu es habitué des studios de Radio Libertaire. Il y a des émissions de théâtre. Est-ce que tu es déjà venu dans une émission
de théâtre? Oui, je suis venu quelques fois ici, oui.
Et c'est sur un texte qui s'appelle « Les pigeons de la Grande Guerre » d'Armand Gatti que tu vas nous lire, et tu vas d'abord nous présenter ce texte pour Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître, ni publicité, ni nationalisme. Je te laisse la parole, Jean-Marc.
Oui, donc le texte que je vais dire donc s'appelle « Les pigeons de la Grande Guerre ». J'en dis à peu près 60%, les deux tiers. Il est issu d'un ensemble de textes de quatre petits livres que Gatti a écrits à la fin des années 90 et au début des années 2000, qui est regroupé sous le titre de « L'anarchie comme battement d'ailes » et qui décrit les pérégrinations d'une famille imaginaire qui s'appelle la famille Uccello, qui veut dire « oiseau » en italien, qui était originaire du Piémont, comme l'était la famille de Gatti, et même plus précisément de Pianchereto, c'est dit dans le texte, comme l'était la famille de Gatti, enfin en tout cas, la famille de Gatti s'est retrouvée à Pianchereto à un moment. Et donc ces quatre livres décrivent le premier, les pérégrinations des enfants Uccello, enfin de ceux qui restent après les morts de la guerre de 14, qui partent en Amérique, nord et sud, qui sont souvent proche de la cause anarchiste, en tout cas souvent des militants. Mais tout ça est traité sur un mode très poétique. Le deuxième, c'est celui que je lis, et là parle plus précisément d'une famille de trois personnes qui sont constituées de Armando le balayeur, Chiara la femme de ménage, et l'Engoulevent le fils, qui vivent à Monaco, et qui là, pour le cadre, sont quand même très proches de la propre enfance de Gatti, puisque l'action se passe dans le bidonville dans lequel il a grandi. Les métiers sont ceux de ses parents. Son père était balayeur et sa mère était femme de ménage. Et on y parle de la mort d'un des protagonistes qui est mort comme est mort son père au cours d'une grève des boueurs, à ce qu'on en sait. Voilà. Je voulais juste préciser, on en a parlé tout à l'heure Florence, c'est que l'univers de Gatti est un univers très auto-référencé. C'est-à-dire que Gatti crée son propre panthéon, il crée des mythes, et dans ce panthéon, il y a des personnages qu'il a choisis, adoptés, et auxquels il fait allusion quelquefois d'une façon tout à fait sibylline. Et ce qui fait que les auditeurs ou les spectateurs, quand je dis le texte au théâtre, se perdent un petit peu en pensant qu'il y a des sens cachés à trouver. Je vais citer juste un exemple. Par exemple, quand il parle de Rosa Luxembourg, qui est pour lui un des grands personnages de ce fameux panthéon, il a retenu d'elle, entre autres, qu'elle avait une passion pour les maisons charbonnières, qu'elle allait écouter dans un parc. Elle a même écrit qu'elle souhaitait que sur sa tombe, on écrive seulement « tweet, tweet, tweet », le chant de la mésange charbonnière. Eh bien, quand Gatti va faire allusion à Rosa Luxembourg, il va simplement parler de la mésange charbonnière. Et on comprend à ce moment-là que c'est que Rosa Luxembourg est venue faire un petit passage dans l'histoire. Il y a aussi le mythe de la baleine. La baleine est un animal symbolique pour Gatti, qui l'utilise dans plein de circonstances. Il raconte, par exemple, que sa mère et son père se donnaient rendez-vous à Monaco, à côté du squelette de la baleine qu'il y avait dans le musée océanographique. Et donc la baleine aussi revient comme ça de temps en temps. Donc, il faut juste dans ces moments-là se laisser porter, puisque ce texte finalement n'est qu'un très très long poème. Donc, il faut l'entendre comme un poème.
Alors, c'est paru aux éditions Sileps, ces quatre petits bouquins,
Éditions Sileps, et d'après mes renseignements, je les ai eus il n'y a pas très longtemps, ils sont toujours disponibles.
Moi, je les ai trouvés au marché de la poésie.
Oui.
Il y a un certain temps déjà.
Mais je crois qu'encore aujourd'hui, il s'est pas épuisé, quoi.
Bon, bah alors j'ai oublié de te dire, excuse-moi, de présenter Jean-Marc Luneau. Tu es un homme de théâtre. Tu es metteur en scène. Moi, je t'ai connu à La Parole Hurlante, dans une des rencontres avec Gatti, je sais plus laquelle. C'était il y a vraiment longtemps. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours par rapport à Gatti en tant qu'homme de théâtre?
Oui, bah écoute, en fait, il s'est trouvé que je suis allé au théâtre de la Colline, là, dans le 20e, je crois que c'était en 2001, un lundi où Gatti lisait un de ses derniers textes, qui s'appelle Didascalie. Et à la fin de ce texte, Gatti a annoncé qu'une nouvelle expérience démarrait à Montreuil et qu'il invitait toute personne voulant y participer, à y participer. Donc, j'ai joint les gens de La Parole Errante, que je connaissais très peu. J'avais déjà travaillé sur des textes de Gatti avec une compagnie que j'avais cofondée avec des amis à la sortie de notre cours de théâtre. On avait fait le cours du Lin. Et on avait travaillé sur le texte que Gatti avait ramené d'Irlande, où il était allé pendant presque un an, où il a tourné un film qui s'appelle « Nous sommes tous des noms d'arbres », un film absolument magnifique.
Ah, oui.
Voilà. Oui. Donc on avait travaillé sur le livre qu'il avait ramené. Et donc je connaissais effectivement un peu Gatti et un peu son œuvre, mais lui, je le connaissais pas. Et donc je me suis inscrit, j'y suis allé, on a commencé une de ses aventures dont il avait le secret, et puis s'est liée une relation qui est devenue vraiment assez vite une solide amitié, et après j'ai continué à le voir, pas tout à fait quotidiennement, mais pas loin. J'ai beaucoup travaillé sur ses œuvres, à La Parole Errante notamment, et puis même en dehors. À l'époque, je m'occupais d'un festival de théâtre dans un petit bourg du centre de la France qui s'appelle Saint-Benoît-du-Sault. Et en 2007, on a consacré le festival à Gatti. Et on avait écrit et monté une pièce qui s'appelait « Armand Gatti, est-ce un nom d'arbre ?» Alors, qui n'était pas un texte de Gatti pour le coup. Et puis j'ai travaillé sur beaucoup, 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 beaucoup de ces textes, à la fois textes de théâtre ou même textes plus littéraires.
Tu l'as montré à Montreuil, cette pièce, parce que je crois que c'est...
Elle a été jouée à La Parole Errante.
Je l'ai vue à La Parole Errante, mais il y a longtemps, c'était...
Ça devait être 2007-2008, oui.
Le temps passe. Donc, merci Jean-Marc. Je rappelle, vous êtes sur l'émission Flemmardise et Réveille-Mot ne trouble pas ma sieste, le premier mercredi du mois, de 14 à 16 heures. Et aujourd'hui, nous célébrons le centenaire d'Armand Gatti. C'est la deuxième émission et c'est avec l'homme de théâtre Jean-Marc Luneau qui va nous lire une tentative de dire les pigeons de la Grande Guerre d'Armand Gatti sur une aire de jeu. Eh bien, j'ai ce fichu ordinateur. Est-ce que je passe tout de suite la
chanson de Serge, oui.
Alors, la première chanson va être la Makhnovchina, une chanson d'Étienne Rodagil, chantée par Serge Ujeruyo. Et je ne me trompe pas, c'est le troisième.
Makhnovchina, Makhnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. à travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Denikine est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans, qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovtchina, Makhnovtchina, les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.
Sur la haute montagne, le ciel et la neige éternelle. Entre l'amour et l'amitié.
Là, j'ai fait une bêtise. C'est pas par Audacity. Ça s'est ouvert tout seul et je. Alors, écoute, nous allons parler d'abord. Je vais essayer de l'ouvrir par quelque chose d'autre. Et voilà, ça va rentrer.
C'est ça qu'on lit ?
Ça y est.
Alors c'est toi qui le dis.
C'est bon.
Les mots disent Armando, le dernier des fils Uccello. Encore en vie ou pas? C'est vers ce point d'interrogation que fait route le père Uccello, chez qui l'habit noir du merle a remplacé la tenue garibaldienne du pinson. C'est aussi vers ce point d'interrogation que vont les mots. Leur destin, une histoire qui se vit encore en large fragment entre les Ginkgo Biloba de Piancereto, l'allée des saules ayant complètement disparu sous les insecticides avec lesquels quelques paysans des collines croient donner une deuxième jeunesse à la terre. Armando, tu n'as jamais quitté l'Europe, mais tu te trouves partout, au croisement des pourquoi et des comment parmi les choses qui vieillissent et dont parfois on se souvient. te réveiller de l'histoire des enfants des collines qui avaient deux ailes à leur nom. C'est une fois encore imaginer d'affronter le déluge, son arche, ces grands êtres volants perdus dans des paléontologies lointaines, ces arbres déboussolés, les routes de la baleine et leurs théories de la catastrophe multipliées. Dans le visible comme dans l'invisible, tu as pris au corps tes innombrables destinées et peut-être marqué le monde de leur empreinte, même si au moment où nous te parlons, elles ont pris la démesure des années-lumière. Nous voici face à toi, mots d'un film, en l'absence d'images qui figent et appauvrissent. Et te voici, au générique, balayeur à la Société des Bains de Mer pour l'assainissement de la Principauté de Monaco dans les Alpes-Maritimes. Ô assainissement, que de crimes on commet en ton nom! C'est ce que, émigrant, tu vas découvrir. Chaque jour, tu es pris dans l'uniforme du balayeur de l'assainissement, en toile écrue jaune, avec des parements verts qui te font ressembler à un prisonnier de guerre, figurant. Pour la première fois, l'uniforme fait de toi ce à quoi tu ressembles. À tes côtés, il y eut Giulietta, d'abord, foudroyée à 22 ans dans les collines avec un bouc qu'elle ramenait un jour de tempête. Chiara, ensuite, que l'hirondelle était allée chercher à l'orphelinat de Casal, entre les ginkgo biloba où elle avait été élevée. Chiara était le nom de la compagne de Bernardone, saint François d'Assise, récupérée, elle aussi, par l'Église comme sainte. Dans les Alpes-Maritimes, Chiara est femme de ménage. Elle est faite de lessive, de parquet frotté, de prières en chapelet, d'eau vive. Si elle connaît les plumes, ce sont celles des plumeaux, des différentes patronnes. Son beau-frère Augusto l'avait traduite en parler mexicain de Chicago. Capa Caminos, l'oiseau qui ne chante jamais. Entre Chiara et Armando, le fils, baptisé Langoulevent par le père Uccello, et qui, pour justifier le nom de famille, lui qui n'était pas des collines, deviendra parachutiste. Entre Armando, Chiara et Langoulevent en même temps, Burbut, le chien, avec une seule aile pour battre l'air, sa queue. Mais quelle baguette de chef d'orchestre lorsqu'un Uccello lui parlait. En tant que ressortissant du bidonville Le Tonkin, tu disais « Nous faisons tous les quatre partie d'une ville qui nous rapetisse par tous les côtés. » Vivre ou faire semblant? Comment se poser la question dans un décor de cinéma? Un décor de cinéma, disais-tu. Devant un décor de cinéma, on transbahute des personnages qui en endossent d'autres qui sont morts, mais qui font semblant d'être vivants pour aller mourir dans une image, peu importe laquelle, pourvu qu'elle soit à vendre. Ici, comme dans aucun autre endroit du monde, nous vivons dans la magie. Peut-être d'une certaine façon, en avons-nous besoin ? Sauf que le destin d'un décor de cinéma est d'être détruit, à peine l'a-t-il servi. Peut-être la principauté n'a pas encore servi. Elle attend le premier tour de manivelle. L'enfer existe. Tes frères l'ont connu. C'est la bondieuserie américaine. Sur ces terres envahies où ne survivent que les réserves, Angelo et Augusto avaient une cause à défendre, celle de la famille Uccello, le passage de Bernardonnet pour la mère, la mésange charbonnière pour Mélania, les couleurs du pinson pour le père, la baleine patagone pour Angelo, les alouettes postées sur le peuplier pour Augusto, le cygne noir pour Paolo, et le peintre et ses couleurs du même nom que Uccello. Sans rapport de langue, d'habitude ou de besoin, le pays de l'Indien dans son immensité était, par plus d'un côté, celui de la famille Uccello. Sauf toi, dans l'enclave monégasque, tu n'as rien. Verbe être et avoir se confondent. À l'époque, une feuille de salaire pouvait devenir une cause. Pas pour la famille Uccello. Tu te retrouves comme le Saint-Georges de cet autre peintre pisan dont le dragon a disparu du tableau. L'exil à Monaco n'est pas de devoir parler une autre langue. C'est lorsque ceux avec qui tu travailles parlent un autre langage que le tien. Le contrôleur de l'assainissement pioche pourrait inscrire son beau nom d'outil dans l'histoire des Uccello, comme une prophétie. Mais la tienne, au contraire de tout ce que le contrôleur représente, sera le pigeon. Et avec lui, tous tes frères tombés dans la guerre des tranchées. La parcelle grimaldienne à toi impartie, le Larvoto, donnait sur la Méditerranée. Principale activité au-dessus des rochers déchiquetés presque toujours couverts par les algues, celle d'une esplanade aménagée en style victorien, le tir aux pigeons vivants. À la benne et au balai, il te fallait ajouter l'escalade des rochers marins pour récupérer les oiseaux foudroyés ou blessés qui y étaient tombés. Tu disais, la Méditerranée se plaint tout le temps à cet endroit-là. Le jour où, à l'endroit de la plainte, pioche, contrôleur de l'assainissement, te parla d'une boîte de petits pois comme finalité du pigeon, éclata un conflit à la mesure de l'enclave et peut-être au-delà. Mineur en apparence, l'enjeu se situait sur le grand phoque de l'arche de la famille Uccello. L'oiseau et ses centaines de milliers de plumes noires, grises, violettes, blanches, argentées, tournoyant au-dessus des rochers du tir, qui allaient être tiraillés, morts ou vifs, entre deux idéologies ennemies. Le pigeon était pourtant de ceux qui, en leur temps, une branche d'olivier au bec avait apporté, même dans les fausses traductions de la Bible, la paix au monde. Le génocide est avant tout un passe-temps de savants ou de scientifiques. À Monaco, il devient celui de la racaille des nantis. Conformément à leur définition de racaille, celui qui se livre à des effets tumultueux et bruyants, les nantis se présentent prolongés par une arme sur les lieux mêmes de l'extermination, en lord de vice-royaume à la retraite, en cigare bagué avec au bout un roturier nonobstant milliardaire que son cigare dit américain, en arrière-petit-feu de marmite française d'Empire, en bi-dégénérescence princière italienne difficilement tonifiée, sauf le doigt sur la gâchette par la présence occasionnelle de gérarques fascistes, le faisceau romanisant à la boutonnière. Personnage d'une lutte de classe, couleur, forme, style, 19e, regroupant en un maître coup de pinceau ceux qui font contre eux tonner la raison en son cratère. Par leur seule présence, le pigeon du tir devient un damné de la terre, et par extension, un compagnon de lutte, un anarchiste de la tendance cafiero, battant des ailes devant les carabiniers. Ce qui consolide l'ère colombière lui apporte ses sacrements, c'est qu'à ce social en proie à la rougeole viennent s'ajouter tes personnages. Bersaglier, Armando Uccello, tu retournes presque chaque nuit parmi tes frères à plumes guerrières qui ne sont pas revenus des dates 14-18. Ils ne sont plus événements mais mémoires trop pleines qui se déversent partout. De la guerre comme de l'événement, les pigeons sont consanguins. Au premier coude que faisait la tranchée dans les cages des services de communication, impossible de ne pas les voir, il y avait les pigeons. L'information pour des milliers de bouches à feu et à meurtre dépendait de lui, les ordres de repli et d'attaque aussi, chaque vol était porteur d'un poids écrasant de vie, les allées et retours, au-dessus de la mort quotidienne, lorsqu'ils étaient tronqués, pouvaient devenir une remise en question de tout. Guerre juste, injuste, sainte ou boucherie, l'envol se faisait toujours à la verticale. Comme au tir au pigeon lorsqu'un pigeon tombait, un autre le remplaçait. À peine l'armistice signé, un lambeau de la grande guerre s'est établi au-dessus de l'Arvoto. Chaque jour tu entends les fusils donner à son fantôme, la voix de leurs cartouches et le sifflement de leurs balles. Avec le tir au pigeon, la guerre se raconte maintenant, au présent.
Cécile Chaminade, 1857-1944, Romanza Appassionata, trio, piano, violon et violoncelle. Tiens, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Ah. Eh bien, je vais changer de disque parce que je change de morceau. Là, ça bloque. Zut alors. Vous êtes sur Radio Libertaire dans l'émission Flemmardise et Réveille-Mot ne trouble pas ma sieste du mercredi 4 septembre 2024. Et notre invité Jean-Marc Luneau, un homme de théâtre, lit et dit surtout, parce que tu le connais quasiment par cœur, Les Pigeons de la Grande Guerre d'Armand Gatti pour célébrer le centenaire de sa naissance. Vous écoutez Cécile Chaminade dans Capriccio, opus 18.
Thank you.
Pour l'engoulevent, père est un étrange pigeon. Plus grand que lui, il lui invente la liberté, où qu'ils aillent en promenade tous en soleil autour de lui. Même le rocher princier sort de l'opacité dans laquelle il doit végéter depuis Hercule. Les pigeons blessés, lorsqu'ils survivent, prennent place dans la maison. Une maison qui n'est qu'une demi-baraque de bidonville et qui a accepté de devenir volière. Chiara n'a guère osé protester. Les miracles tels qu'ils ont lieu dans le Piémont, même ceux dont a bénéficié Don Bosco, ont toujours eu les pieds sur terre. De ces images laïques et parfois salissantes de la troisième personne de la Trinité, Mère attend le miracle à la piémontaise. Burbut est exclu de l'air du pigeon, mais la nuit, par des petits jappements intermittents, il laisse entendre qu'à force d'être entouré de volatiles interdits, ses rêves sont capables d'en fournir de parfaitement comestibles. Pigeons de nuit, pigeons de jour sont les mêmes pour le fils Uccello. Ils volent avec eux. Ils se prolongent d'ailes longues et pointues qui permettent des changements de cap brutaux, des voltiges déconcertantes. Le vol des oiseaux écrivait autrefois l'histoire du monde. Tout était dans l'arabesque. Tu découvres l'envol à la verticale et il devient ta vérité. Il t'arrive de reconstruire le monde autour de cet envol. Par les nuits étoilées, tu cours le monde, tu reconnais les courants thermiques descendants, les vents encore porteurs d'espèces animales disparues, navigation difficile dans la nuit du pays des Grimaldi. Surtout lorsque tu te heurtes à ces constellations, elles sont toutes fausses. L'idée qu'on vole dans rien. Mais comme tous les gens à plumes que tu as connus, tu dois inventer la carte du ciel tous les jours. Entre perchoir réel et étoile isolée, le pigeon du tir devient le rêve constellant arraché à toutes les indifférences autour duquel se construisent en jours de travailleurs les improbables lendemains qui chantent. À l'heure dévastatrice des réveils mécaniques qui alors devançaient le chant du coq, tu vas au travail avec le sentiment que tu emportes déjà la mélodie au fond de toi. Et d'annoncer le soir, en revenant avec tes pigeons morts ou blessés, on dit que le prolétaire a toujours été un pigeon. Comme Augusto à Chicago, c'est la route du vent que tu essaies de tracer dans l'impasse monégasque. Celle qui naît des collines et que les Uccello, ces riverains, prolongent aux quatre coins du monde. Rien que des regards bleus au départ de cette terre. Des pilosités rousses ou jaunes. Des peaux blanches supportant difficilement le soleil des travaux d'été. Seul Dionigi, l'aïeul absolu, était brun. Sur sa peau, le soleil chantait. Mais pour sa descendance, il avait été submergé par les laissés pour compte de passage celtes, les pourchassés slaves, qui, bien au-delà des registres conservés à la cure de Castel San Pietro, n'avaient cessé de se marier et de se remarier entre eux. Armando était le cousin germain de ces deux femmes. Grande devait avoir été leur mégalomanie. d'où une dégénérescence semant la paranoïa à tous les vents des générations à venir. Donnant des illuminés selon les lunes, des tourmentés courant les routes avec des bottes de 7 lieues, des chercheurs de secrets venant invariablement d'Égypte, des constructeurs de tours en proie encore aujourd'hui à la détresse des ziggourats transplantés, des organisateurs de fêtes disparaissant toujours quand la fête avait lieu, des cordonniers marteleurs de fables et de richissimes fermiers perdant tout au jeu en une seule nuit. Riches ou pauvres, à la mora, au tarot, aux cartes ésotériques, remplies de fruits et de légumes à l'Archimboldo, le jeu suicidaire unifiait la famille. Sauf les adhérents du tiers ordre, des oiseaux, en péril, mais dont ils prônaient l'avènement, le seul corps qui puisse recevoir Dieu est celui de l'oiseau, son chant nous sauvera tous, et ils allaient prier à la manière des pivers en frappant des coups rythmés sur des troncs d'arbres. Plus concret, des chanteurs de rizières, des accordéonistes portant l'aubade aux arbres sous la frondaison desquels Bernard Donnet avait parlé aux oiseaux. Une génération de garibaldiens à cheval. Des virtuoses de roulettes russes comme si la loterie de la mort était héréditaire. Des marchands de bestiaux du Saint-Esprit, fulminés par l'évêque de Casals en même temps que les soldats de la Révolution française. Des suiveurs de Malatesta ou de Cafiero, ou des deux en même temps. Un grand-oncle qui se laissait mourir de faim sous un portrait de Lénine pour ne pas apporter sa contribution au capitalisme. Des mystiques donnant aux prêtres leurs récoltes de blé et les cuves de leurs vendanges, en disant « Je ne suis pas digne », pendant qu'à la maison les enfants se battaient pour une tranche de pain. Des loups-garous hurlant après les étoiles d'hiver, et même un cousin fasciste de 2,20 m saluant le bras tendu à l'infini. Tous fermés au monde avant même d'y venir, mais y déplaçant, le plus souvent, une imposante silhouette. Le pinson garibaldien et l'hirondelle franciscaine, sœurs et frères de fils et de filles, avaient eu le même grand-père sous la forme d'un géant messianique qui avait fini par aller vivre avec les loups. Arc-en-ciel sur le Tonkin. Le bidonville où le balayeur, la femme de ménage et leur engoulevent ont transformé leur baraque en volière. Le bidonville est investi de la majesté que donnent les cygnes lorsqu'ils se libèrent. Au-dessus des toits, en tôle et en papier goudronné, le ciel de la Méditerranée est une note juste. Dans cette note, tu fais évoluer tes pigeons rescapés. Tu souffles dans tes doigts disposés en tissage pour faire différentes hauteurs de sifflet. Les évolutions des pigeons sont musicales, c'est un chant de plumes et d'air que tous entendent. Même les voisins vietnamiens qui regardent, souriant, en secouant la tête. Et toi, Armando, tu dis c'est ma façon de préparer le grand soir. Le grand soir est-il horizontal ou vertical? Problème de balayeur qui n'a plus sa tenue de figurant, mais une véritable salopette de travailleur, La guerre d'Espagne impose la mode sur les parvis du casino. Le ballet d'Armando affirme sa verticalité, ce qu'il balaie son horizontalité. À la principauté, la Méditerranée ne donne pas d'autre futur que sa ligne d'horizon, mais à toi. Est-ce dans la lutte indécise pour la verticalité qu'à un moment donné, tu t'es engagé dans un travail supplémentaire? Planter des arbres sur la route de la Turbie qui se termine par la tour d'Auguste. Avant, l'hirondelle t'avait fait planter des arbres là où Bernard Donnet avait parlé au loup. Depuis, les feuilles tombent chaque hiver, mais chaque hiver, leur verticalité reste. Elle s'affirme. Ton engoulevent dira de toi, je ne l'ai vu que debout comme ressuscité de cette horizontalité sur les rochers du Larvoto au dialogue imprécis avec la ligne d'horizon. Avec toi, toujours, les paroles d'Augusto. À Chicago, près de l'asile des orphelins, il y a deux rues qui se croisent. Un carrefour dans lequel il ne faut jamais pénétrer lorsque la navipire annonce la tourmente. Le vent y opère avec une telle vitesse qu'on gèle debout en plein milieu avant d'avoir pu en sortir. Une verticale entre deux horizontales qui se croisent. Mais c'est là que commence le problème que tu n'as jamais pu résoudre. S'agit-il d'une verticale ou d'une horizontale qui a abdiqué? Chiara dit que toutes les lignes se rejoignent dans la recherche du pain à gagner, même si elles ne se croisent jamais. Le fils Uccello maintient ses perplexités. Dans la demi-baraque, autour de la table horizontale, il y a des repas horizontaux. Mais il y a aussi des repas verticaux.
Cécile Chaminade, piano trio, opus 11. Violon, violoncelle et piano, par le trio Parnassus. Cécile Chaminade, c'est la compositrice, et le trio Parnassus, ce sont les interprètes violon, violoncelle et piano. Cécile Chaminade est morte en 1944 et le disque a été enregistré en 2017.
Il a fallu 10 ans de séjour en dehors des collines pour que Chiara raconte à son fils ses repas de la mise à pied. C'était une mauvaise habitude d'enfant des collines. Le jeu consistait pour les grands de se défier avec des repas inventés à partir des morceaux de pain qu'ils étaient en train de sucer pour que le croûton dure plus longtemps. C'était alors la maladie ou le privilège des enfants pauvres des collines d'inventer le repas qu'ils n'avaient pas.
L'Engoulevent se souvient. Pas d'orgue à plumes ce soir-là. Devant la porte, tu as déposé 3 cadavres d'oiseaux. Il n'y a pas de blessés. Les 5 rescapés déjà dressés sont dans la niche. Tu as montré tes mains vides et tous comprennent. Dans tout ce que tu fais, il y a une lampe allumée. Ce soir, c'est la lampe à pétrole. Elle fume. Un repas vertical se prépare. Mère qui n'a rapporté que du pain le sait. Dans quelques instants, elle dira qu'elle a mal à l'estomac, qu'elle ne peut pas manger, que de toute façon, elle épluchera plus épais les pommes de terre de la patronne, et elle voudra partager sa part de pain avec l'enfant. Ta famille est à table, une table escamotable plutôt gênée d'être là. La frontière entre l'enclave et son infini français passe par elle. Lorsqu'il y a des centres de police, ce sont les uniformes bleus du commissariat de Beausoleil, et jamais les noirs et fauves de son Altesse Sérénissime. Ce qui permet de reconnaître une baraque italienne ou espagnole des autres, c'est sa propreté exagérée. Tous les trimestres, mère passe tout à la chaux, excepté les couverts argentés qui proviennent des poubelles de l'hôtel de Paris, des affaires personnelles et des lits. Au milieu de cette redoutable hygiène, tu occupes la place centrale face à la porte, à droite Chiara, à gauche votre Engoulevent, de l'un à l'autre burbute que certains soirs les puces inquiètent. 4 couverts sont mis. Le 4e, c'est le couvert du pauvre. Ce soir, il restera vide comme les 3 autres. C'est un jour de mise à pied et parfois plus. Le parfois plus correspond à une coupe opérée dans le salaire par le contrôleur de l'assainissement pioche lorsqu'il y a infraction à la bonne marche du travail. Chaque jour non payé, c'est la guerre du pigeon qui continue. Pioche, au beau nom d'outil, n'admet pas que depuis la mutation dont il t'a sanctionné, sur les terrasses du casino, tu ailles, même de nuit, empiéter sur les territoires de ton successeur, qui lui reconnaît la finalité des petits pois pour le pigeon. Il lui suffit de voir Burbute rôder du côté de l'Arvoto pour laisser tomber le couperet. Tu n'as jamais rempli les feuilles de doléances pour protester. C'est une guerre nécessaire, la reconnaissance de ta lutte, la militance qui continue. Un jour de mise à pied, c'est le signe que l'anarchie vaincra. Et comme à l'époque de la campagne pour arracher Sacco et Vanzetti à la chaise électrique, tu te lèves de nouveau à 3 heures du matin. Mais les mises à pied s'ajoutant font des trous. Avec l'obstination des mythes dans un tricot. Le reboisement auquel tu participes en extra est suspendu. Les ménages de Chiara ne comblent pas toujours. Ces jours, tombés dans la lutte fatale, ne permettent que le pain rassis sur la table. Rassis est une qualité. Le pain est moins cher et on en mange moins. S'y ajoutent des figues de Barbarie quand les vacances permettent aux enfants du bidonville d'en faire provision le long de la voie ferrée de la Crémaillère. Parfois des caroubes, précédés de la recommandation de mère, que personne ne sache que nous mangeons des caroubes, ce serait la fin de notre réputation. L'Engoulevent dira plus tard, père parlait toujours comme dans une conspiration. Conspiration qui cherche chaque fois sa solution dans le chien. Tu entends, Burbut? L'homme est un animal de terre promise. C'est une obligation d'assumer cette animalité. Malheureusement, grand silence, le capitalisme veut que nous soyons des animaux sans terre promise. C'est quoi des animaux sans terre promise? Des travailleurs. Mère? La conspiration continue. Le pain est sur la table. Nous l'avons gagné avec notre sueur et nos jours de peine. Mais il y manque tout le reste, gagné aussi avec notre sueur. Les tireurs du tir aux pigeons sont à table en ce moment. Mangent-ils autre chose que leur honte? Nous allons les battre là où ils sont et faire la démonstration que nous mangeons mieux qu'eux. Il faut avoir le courage de le dire, nous ne mangeons pas, nous banquetons, comme si c'était vendredi, et même plus. Le vendredi, d'ordinaire, c'est ton jour. Tu t'empares des feux pour ne pas les laisser à la religion qui exige le maigre. Les prêtres, ou plutôt tes prêtres, ils sont toujours ristournés à Chiara. Et le capitalisme, rat de laboratoire et laboratoire de rat. Que fait en ce moment ton pape, le fasciste Pacelli? Il bénit Franco, il bénit les troupes de l'Axe. Il se croit même supérieur à Jésus-Christ, qui lui était anarchiste, et même un anarchiste qui a réussi, ce qui est un peu contradictoire, mais avec l'Église, il faut s'attendre à tout. Dès le jeudi, Armando met à tremper la morue. Manger de la morue, c'est hâter la fin du capitalisme. Il a du phosphore qui rend intelligent ce poisson-là. Ail, tomate, oignon, muscade, champignons, basilic, laurier et grains de genièvre sont porteurs de présents. Fermez les yeux. La mère et le fils ferment les yeux. Burbut passe sous la table. Rêver à l'odeur de viande d'oiseau, dont l'odeur vient de devant la porte. Le vendredi, en principe, c'est la farine de maïs qui reçoit ses alliés sapides de l'opération anticapitaliste. Mais un jour de mise à pied, tu n'hésites pas à faire appel aux châtaignes, à la sauge, aux raisins des bois. Mettez une brique sur la table pour ne pas endommager la toile cirée. Les châtaignes arrivent brûlantes. Et l'Engoulevent se souvient encore. Les dessins jaunes et verts de la toile cirée approuvent. L'odeur s'empare de nous, et avec elle les collines hérissées de châtaigniers d'avant la maladie s'installent dans la baraque. Tu es un ascète père. De cet ascétisme d'une vie passée à mal manger, mais tu sais raconter. C'est l'histoire de la nourriture que tu donnes à manger. Celle des châtaignes, de la morue et des mers qu'elles traversent, des avatars du cardon géant du mont Ferrat. Nous ne savons plus ce que nous mangeons. Les légions romaines, les civilisations cupulifères, les mers froides, les mers tempérées et leur migration de poissons anacantiniens. Les menus retrouvés des comtes de Casale, dont le palais gustatif avait été formé par leur famille alors régnante à Byzance. Le rossignol qui, de baie en baie, varie son chant. Les dialectes parlés sur les collines s'en inspirent. Sous la table burbute ce débat dans l'horizontalité et l'odeur des pigeons toujours devant la porte. En général, la lourde polémique que tu promènes parmi tes anarchistes buveurs d'eau et Chiara, grenouille de bénitier, est évitée. Un repas vertical n'est fait que de paroles. Entre boire et nommer le vin, il y a une différence. Mais justement, ne pas apporter de vin à un repas de mise à pied te paraît plus qu'une anomalie, une offense au travail. Parfois, d'emblée, tu attaques. Le vin arrive tout de suite sur la table en combattant toujours fidèle des luttes anticapitalistes. « Nous y sommes, » dit Chiara. Tu en bois un litre et tu cesses sur le champ d'être une domestique. Est-ce que tu serais allé faire un tour du côté de ces messieurs du faisceau? C'est comme ça qu'ils parlent. Tu repousses avec les mains, provocation. Le vin sur la table, c'est l'âme liquide du prolétariat conscient. L'hostilité de mer se répand tout autour de la table amovible. Toi, tu insistes. Tu divises, tu classifies, tu additionnes, rien que des vins des collines excluent ceux de la plaine qui ne poussent que dans le brouillard. L'ivrognerie, c'est la ruine de la maison, dit Chiara, les yeux toujours fermés. La demi-baraque en frémit. Les collines viennent alors à la rescousse. Elles sont, maintenant, le nom de chaque crue qui raconte d'enfer en enfer. Le nom des caves, Inferno. Les labeurs du mont Ferrat. Les années des fils Uccello ne se mesurent plus en temps de calendrier, mais en millésimes, avec ou sans grêle, avec ou sans grande pluie de printemps, avec ou sans automne ensoleillé. Chiara proteste, et protestant, rend plus irréel encore le repas. Il y a trop de vin sur cette table, Armando, ce n'est pas fait pour ton fils. Et le vin de messe, qu'est-ce que c'est? Le sang du Christ? Je l'ai foulé avec mes pieds. Tu blasphèmes, je l'ai vendangé, ça suffit, je vais me coucher. Le vin, c'est du sang, de la vie. Et de la sueur de chez nous. Les collines du mont Ferrat s'étendent à perte de vue. Une fois, tu as tapé tellement fort sur la table que le verre vide devant l'assiette vide du pauvre s'est brisé au contact de la main prolétaire devenue blasphématoire. Les yeux des participants au repas vertical se sont ouverts un court instant pour constater qu'effectivement du sang teintait la toile cirée. Les dessins jaunes et verts se sont mis à chanter au contact de la traînée rouge. Ce ne pouvait être que l'international des grands soirs. L'authenticité et son angoisse venaient occuper la place du pauvre. S'il y a des caroubes à la fin d'un repas vertical, le bruit des mâchoires apporte sa contribution sonore. De son côté, Burbute mâchouille l'ombre de Coutron qui lui est revenu. Sans doute rêve-t-il du grand soir, lui aussi, dans quelques heures. Les poubelles du quartier seront enfin accessibles. À partir de là, la réalité vient elle aussi multiplier l'irréalité dans laquelle baigne la famille autour de la table escamotable. Chiara se lève et remercie le Seigneur pour toutes ces nourritures qu'il vient de nous accorder et demande sa bénédiction. Bénis-nous, Seigneur, comme tu as béni ces nourritures que ta générosité. Père s'en va enterrer ses pigeons morts le long de la voie ferrée pour qu'ils aient une sépulture décente, pour rester jusqu'au bout dans la dure verticalité du repas. Attends. Tu as de la musique ?
Vous entendez la compositrice Cécile Chaminade, 1857-1944. C'est un disque de ses trios pour piano, violon et violoncelle, avec le trio Parnassus, Julia Gallic au violon, Michael Grobe au violoncelle et Johan Blanchard au piano. C'est un disque enregistré en 2017.
Caracciola, Von Braurich et Rosmeyer prennent ensemble le départ du Grand Prix de Monaco. Haas part en tête à queue et il ralentit la course. Caracciola est à nouveau en tête, suivi de Von Braurich. La tension monte lorsque Von Braurich prend la tête après un arrêt au stand. Il est excédé d'être l'éternel second. Caracciola ne parvient pas à le...
À toi.
Ah. Mais le texte, il est passé en entier ? Je ne l'ai pas entendu.
Oui, oui.
Ah, ok. L'horizontalité a son rythme, la vitesse. Une fois l'an, la fête pascale travestie en technologie raffinée, en bonne conscience à cylindre. La principauté, lieu de la catastrophe et du temps perdu, devient une autre elle-même supposée, le Grand Prix automobile de Monaco. Pendant 3 jours, la cité quitte sa balnéarité pour devenir circuit. Entrée dans les médias par ce circuit, reste pour toi et ton chien le saut existentiel le plus inattendu. C'est un samedi. Les derniers essais doivent assurer l'ordre de départ du Grand Prix. Mise en circuit, la ville est devenue stand, tribune, garage, odeur d'essence, pétarade et même sirène lorsque, pour mémoire, au sortir du tunnel du tir au pigeon, la Mercedes-Benz de Rudolf Caracciola plonge dans la Méditerranée. Plus qu'il n'en faut pour que les repères et les trajets de Burbut ne soient plus que des odeurs saturées d'hydrocarbures, mais vides d'indications. Le sait-il, Burbut vit la même transe pascale, la verticalité de la croix, que Chiara dans son église des Franciscains. Mort de la ville le premier jour, descente aux enfers le deuxième, résurrection le troisième, lorsque le grand rite de l'horizontalité se termine et que la cité revient sur les lieux que le circuit abandonne. Mais comment venir te chercher, même si compisser maigrement les sacs de sable mis à chaque chicane lui apporte le doute? D'autant plus qu'après la ligne du tir au pigeon, le circuit se déhanche vers la montée du beau rivage et coupe en deux ton actuel domaine à assainir. À cet endroit, quel que soit son départ, pour te trouver, le chien doit traverser les 2 rangées de sacs de sable entre lesquels déferlent les voitures. Le chien arrive, fait le tour de l'hôtel de Paris et te voit de l'autre côté des sacs. Il veut venir te trouver. À peine les a-t-il dépassés qu'il se trouve face à un bolide. La Bugatti de Philippe Étancelin, le pilote sans casque, il l'évite d'un souffle. Au cri poussé par les spectateurs, tu constates la mise à mort presque inévitable. Tu grimpes sur les sacs et fais signe au chien de s'en aller d'où il vient. Te voyant faire des signes, il continue vers toi. Les bolides qui déferlent de toutes parts semblent ne plus comprendre le circuit auquel depuis 2 jours pourtant la ville est soumise. Ils se répandent dans la plus grande incohérence. La Maserati de Borzacchini et l'Alfa Romeo de Campari font, pour éviter le chien, 2 têtes à queue. En fait, ils répètent déjà le circuit de Monza, où quelques semaines après, ils doivent trouver la mort à cause d'une tache d'huile, dira-t-on. Voyant ton chien perdu, tu te précipites à ton tour, le balai en avant, le signe de la verticalité brisant celui de l'horizontalité. Tumulte, sirène, le Grand Prix est arrêté. Par quel miracle le chien et toi, indemnes. L'ambulance, elle aussi porteuse de sirène, pour ne pas s'en retourner bredouille, vous emporte le chien et toi. Les journaux, le lendemain, le balayeur et son chien arrêtent le Grand Prix automobile de Monaco. Victoire de la verticalité et sa traduction immédiate, 10 jours de mise à pied.
Cécile Chaminade, compositrice. 1857-1944. Thank you. C'est le trio Parnassus qui interprète Cécile Chaminade, compositrice entre deux siècles, le 19e et le 20e.
À se battre dans son propre langage, à 100 mètres du casino, avec un pigeonnier et un jardin qu'il allait inventer. 2 mètres sur 5 de béton improductif devenait un jardin pour le faire entrer dans la vraisemblance des collines. Il fit un hangar où il rangeait manches d'arrosage, pelles, dragues et balais. Un pigeonnier.
La construction du pigeonnier est le compte-rendu d'un malheur. L'abandon du bidonville par les fils ou par la famille Uccello pour une rue à cheval sur la frontière franco-monégasque et qui n'existe que par la promesse de son nom, la rue de la Source. Le déménagement s'est fait avec 5 pigeons rescapés du Larvoto. Les Uccello avaient des voisins, mais ils avaient perdu le sourire. Entorse à l'hygiène, la rue de la Source pétitionne, elle refuse les pigeons. Un ancien combattant avec ses médailles à la boutonnière reçoit les signatures comme si c'était la suite de la guerre de 14. Fils Uccello, parmi tous les sens du mot chute, il y a désormais celui de la lampe qui brille toujours en toi, brisée ce soir-là. Il n'y a que toi face à ton chien, sur ton visage éteint une larme, la première, uniquement là pour barrer quelque chose une fois pour toutes. Ils sont venus. La larme se perd dans sa moustache rousse. Ils, avec un S ou il sans S, ont réussi à pénétrer. Ils ont dévasté le jardin, répandu la terre, versé le goudron pour la rendre inutilisable. Ils ou ils ont incendié le pigeonnier. Ils ou ils ont écrit au goudron sur le hangar « Mort » au balayeur. Seul vagissement jamais poussé par l'enclave en 2 siècles d'existence et le passage de 2 guerres mondiales. L'époque disait mort aux étrangers, aux communistes, aux juifs, aux pédérastes. L'enclave, qui dans l'enclave se mettait à la hauteur des événements, peignait au goudron mort aux balayeurs. Pourquoi la disparition du peuple des balais et des poubelles signe du jour qui naît? Armando, le fils Uccello, a dit à Burbut et à Burbut seul, « Je n'y crois plus. Les chiens savent ce qui se cache derrière un i de balayeur, derrière lequel Carlo Caffiero, Léonard de Vinci, et le monde chez Tchéri s'effondre. Le lendemain a lieu la grève d'ébène. Burbut t'accompagne, mais avant d'aller au dépôt, tu reviens sur les lieux de l'agression, nettoyé, sans doute par habitude. Tu renvoies le chien. Le soir, il repart te chercher. Il revient sans toi. Tu es à l'hôpital. Heure avec les encore forces de l'ordre. L'inscription « Mort au balayeur » plane, mais cette fois avec une chute et sans reprendre conscience à l'endroit où verticalité et horizontalité se croisent. Chiara a dit « Elle a attendu Augusto à Chicago Elle est venue jusqu'ici et elle m'a pris Armando. Elle a attendu ses frères à Jaramillo, devant une horloge, à Chicago, au pied d'une tour d'eau. Qui ça, elle ? Demande l'Engoulevent. La lutte des classes ? Les points d'interrogation ne nous entourent plus, ils nous cernent, nous sommes gardés par eux, d'autant plus que deux jours après, Burbute disparaît. Bien après la guerre, l'Engoulevent dira, saccagé par une voiture et emporté par une benne de l'assainissement, le Grand Prix automobile l'a rejoint, mais cette fois sans balai de l'assainissement pour arrêter la mort. « Ta verticalité, fils Uccello, la maladie des collines, avec une seule issue, la route des frères Uccello, tous morts jeunes, et tu les as rejoints dans cette mort-là. » Entre le Grand Prix automobile et la benne de l'assainissement, depuis combien d'années-lumière Burbute est-il là à t'attendre comme si c'était l'habitude ? Pour le balayeur et son chien, pas de changement. Ils se rendent à un repos vertical, celui qu'on fait en fermant les yeux, et de là, les yeux toujours fermés sur le mont Tchétchéri. Les mots ajoutent, contre toute vraisemblance, ils seront des signes noirs sur le mont Tchétchéri. Carlo Caffiero et Léonard de Vinci les y attendent. Seul le pinson a dû garder les yeux grands ouverts pour s'en aller. À peine était-il arrivé au Larvoto dans son costume noir de merle qu'il avait foncé droit vers les rochers du tir aux pigeons. Peut-être espérait-il encore y retrouver son fils. Depuis, nul ne l'a jamais revu. Une vague l'a-t-elle emporté ? S'est-il jeté par désespoir dans les rochers pour y mourir comme un pigeon à l'époque du tir ? C'est ce que semble dire la Méditerranée. Lorsqu'au soleil levant du jour des morts, l'Engoulevent et sa mère, dernier Uccello, viennent y jeter un bouquet de chrysanthèmes. Les vagues disent et redisent.
Faut-il faire de chaque homme qui bat des ailes un perdant de l'histoire? L'histoire n'est-elle qu'un tombeau où entasser les rêves de l'homme et de ses mots?
Radio Libertaire, vous avez entendu la voix d'Armand Gatti et les pigeons de la Grande Guerre, dit par Jean-Marc Luneau. Jean-Marc, tu as fini ton texte, tu nous as dit beaucoup plus que lu, tu es un homme de théâtre normal, tu peux nous dire qui était cette petite chanson à la fin des pigeons de la Grande Guerre?
Oui, C'est sans doute une des dernières interventions publiques de Gatti, enfin une des presque dernières. Il a lu ce texte de Les Pigeons de la Grande Guerre dans un petit théâtre de Montreuil qui s'appelle le Théâtre de la Girandole. Et à l'occasion, il y avait une chorale qui est venue de Piancereto, donc le village où il y avait la maison de Laetitia, la maison où, dans laquelle Gatti a installé une immense bibliothèque et dans laquelle il allait travailler, dans laquelle beaucoup, beaucoup de ce qu'il a écrit a été écrit. Et ces gens sont venus, avaient pu venir jusqu'à Paris, ils étaient assez nombreux. Et donc, ils accompagnaient Gatti tout au long de cette lecture qu'il avait faite à la Girandole. Et d'ailleurs, les voix de Gatti qu'on entend là viennent donc effectivement de cette lecture qu'il avait donnée. Et c'est une captation qui a été faite par Stéphane Gatti à ce moment-là. Voilà, pour ce qui est de ce groupe de Piancereto. Donc c'est une chorale amateur, mais pleine de fougue. Et c'est surtout qu'ils étaient très nombreux, donc ça avait été assez compliqué de les déplacer, de les faire venir. Enfin, tout ça avait été un moment assez splendide. Et sans doute une des dernières lectures de Gatti. Et quand on l'écoute en entier, on sent il y a des moments où sa voix commence à avoir un peu des difficultés. Mais c'est encore une très très belle lecture, comme il savait les faire.
Oui, il en a fait là. C'était juste avant sa mort, 3-4 mois avant sa mort, quand je fréquentais beaucoup la Parole Errante. Là, je raconte un petit peu mon histoire par rapport à Gatti. Et à cause de on ne savait pas trop comment ce qu'allait devenir la Parole Errante et la Maison de l'Arbre. Et j'avais invité ici, à ta place, son petit-fils et puis le collectif de la Parole Errante qui racontait un petit peu l'histoire de ce lieu. Et je lui avais dit j'aimerais bien rencontrer Gatti et puis l'enregistrer dans ses lectures. Il m'a dit c'est pas très compliqué, il suffit de lui demander. À la fin, il est allé voir ce qu'il appelait son auguste grand-père. Et Armand Gatti était absolument ravi, et merci Joachim, il est parti, il est toujours à Marseille, le petit-fils.
Je pense, oui.
Ouais. Et donc on a organisé deux lectures de Armand Gatti. C'était au dernier trimestre avant sa mort, qui a eu lieu en janvier, peu après ses 93 ans.
Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est un peu plus tard, je crois, mars ou avril. Je me rappelle jamais la date exactement, mais.
Oui, mais la fête de ses 93 ans, c'était en janvier. Il est né en janvier.
Oui, il est né le 26.
Le 26 janvier, et il m'avait dit quand j'étais partie de la Parole Errante. Tu reviendras, on refera des lectures. Et j'avais dit oui, mais je l'avais trouvé tellement fatigué que je m'étais dit on va attendre un peu. Et qu'est-ce que j'ai regretté d'avoir attendu un peu, parce qu'il était plus en forme, vraiment. Mm-hmm. Et il y avait aussi Hélène Châtelain qui avait fait un film sur Macno.
Oui.
Tu peux parler un petit peu de sa compagne, Hélène Châtelain, ou tu l'as connue un peu?
Je l'ai connue. Bon, je l'ai beaucoup fréquentée parce qu'ils étaient ensemble et que, enfin, voilà, on se croisait. Mais en revanche, j'ai pas eu tellement l'occasion, moi, de travailler avec Hélène. Donc, on a eu beaucoup d'échanges, hein, comme ça, impromptus. Pour moi, l'intérêt que j'avais des fois de connaître Hélène, c'est que quand j'essayais de savoir un peu des choses sur l'écriture de Gatti ou comment certaines choses s'étaient passées, c'était très difficile d'obtenir de Gatti des renseignements. Il parlait jamais ni de la genèse de ses œuvres, ni de ce qui s'était passé avant. Il déviait toujours la conversation. Et grâce à Hélène, quelquefois, j'avais quand même quelques indications d'ordre un peu concrètes dont il me semblait avoir besoin. Et voilà, mais enfin, ce qu'on sait maintenant, c'est quand même assez largement partagé, c'est que Hélène ne s'est pas contentée d'être la compagne de Gatti. Elle a vraiment, elle était directrice de collection dans une maison d'édition.
Laquelle ?
Celle qui a édité Gatti, là, dont le nom m'échappe d'un seul coup.
Les éditions Sileps.
Non.
L'autre avec Jean-Jacques Aucard. Oui.
Voilà, toute la grande.
Je ne me rappelle plus. La grande, énorme collection.
Voilà, où il y a La Parole Errante et où il y a. Et puis elle a fait de nombreux vidéos, enfin nombreux films, et beaucoup sur la Russie, puisque Hélène était, malgré son nom de châtelain, était d'origine russe.
Et elle a fait un superbe film sur Makhno.
Voilà, oui.
Que nous avons vu à la librairie Publico. Et je pense, alors la librairie Publico, qui est la librairie du Monde Libertaire, la librairie de la Fédération Anarchiste, 145 rue Hamelot, 75-011, c'est au métro Oberkampf, République au fil du calvaire. Je pense que vous pouvez commander les livres de Gatti si vous en avez envie. En tout cas, les trois ou quatre des éditions Sileps, il y en a trois ou quatre.
Quatre. Il y en a quatre. Oui,
les quatre petits bouquins des éditions Sileps. Le titre L'anarchie comme
battement d'aile, c'est la collection. Et puis après, alors le premier, assez étonnamment, n'a pas de titre. Le deuxième, c'est Les pigeons de la Grande Guerre. Le troisième, c'est Sur les docks. Ça raconte plus, enfin ça raconte. C'est toujours inspiré d'eux, mais bien sûr, Gatti fait pas une biographie où il raconte sa famille, etc. Mais c'est inspiré d'eux, ou c'est inspiré d'une famille légendaire qu'il se crée peut-être. Et c'est le grand-père, c'est-à-dire le père de sa mère, qui aurait été maçon à Marseille et qui aurait créé tout un monde imaginaire, enfin, en tout cas que Gatti a rendu imaginaire, ça s'appelle Sur les docks. Et le dernier, c'est Laetitia, ton nom était joie, et là, c'est vraiment consacré à sa mère. Alors là, pour le coup, très directement à sa mère. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a Stéphane Gatti a réalisé un film à partir de ce texte qui est devenu le scénario du film.
Et toi, tu ne le lis pas qu'au micro de Radio Libertaire, ce texte de Gatti, Les pigeons de la Grande Guerre. Je te remercie, c'était vraiment magnifique.
Je me suis
régalée.
Merci beaucoup, ça me fait plaisir.
Ah ouais, tu es un sacré homme de théâtre. Tu fais quoi en ce moment
Écoute, ce texte-là, je vais le présenter samedi à Saint-Benoît-du-Sault, toujours, enfin je dis toujours parce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est là où j'organise un festival, en fait c'est mon village d'origine, donc des amis là-bas m'ont invité à le dire dans leur galerie d'art contemporain, et puis sinon, là pour l'instant, après il y a deux ou trois librairies dans lesquelles je devrais le dire, mais les dates ne sont pas encore fixées, enfin ce sera tout au long de l'année. Voilà, et puis sinon par ailleurs je fais tourner un spectacle que j'ai mis en scène avec une comédienne qui s'appelle Histoire de Marie et qui est à partir d'un texte écrit par le photographe Brassailles. Mais ça c'est une création qui est un peu ancienne mais qu'on continue à tourner. Et puis voilà. Et puis sinon, je fais un gros travail de recherche sur la voix, sur le dire au théâtre. Voilà, ça m'intéresse beaucoup et j'y consacre pas mal de temps.
On voit.
Je suis content qu'il y ait des résultats.
Je vais plus oser lire les textes à cette antenne après.
Si. Non, mais très bon lecteur.
C'était vraiment très très beau. Est-ce que tu as peut-être encore 5 minutes ou est-ce que tu veux dire encore quelque chose sur le petit dépliant que tu as?
Écoute, sur le dépliant, bien sûr, les gens ont entendu, par exemple, on parle, ça c'est pour donner un exemple de cette façon que Gatti a d'écrire où, comme je te disais, il crée son propre univers, son propre panthéon pour ce qui est des gens, et suivant le texte qu'il est amené à écrire, il les utilise par allusion ou d'une façon plus concrète. Et par exemple, Cafiero, c'était un anarchiste italien qui a traduit une partie du Capital de Marx en italien, la première traduction qui était faite en italien, et dont on dit, ce qui est plein d'humour, que Marx trouvait que c'était presque plus clair une fois que Cafiero l'avait traduite que comme il l'avait écrite. Enfin, il n'a pas traduit tout le Capital, mais une partie. C'était la partie, enfin, l'époque quand même où avec Malatesta et tout ça, ils se sont emparés de villages en Italie où ils ont essayé de faire des communes libertaires où ça s'est mal terminé, de recevoir des fusils, au lieu de m'en avoir 100, ils en avaient 6, enfin bon, tout ça. Et il se trouve que, donc le rapport avec le mont Cecchieri, ce sera vraiment cette anecdote pour qu'on situe bien. Le mont Cecchieri, c'est un mont qui est à côté de Florence, et Cecchieri en patois florentin, ça veut dire, enfin, ça veut dire pois chiche, normalement, mais là, c'est employé pour signaler les signes à cause du grain qu'ils ont sur le nez. Donc, Cecchieri, c'est un mont sur lequel il y a des signes, et il se trouve que Carlo Cafiero, à la fin de sa vie, a été très perturbé, et il écrivait même à un moment donné qu'il sentait des plumes pousser sur son corps. Et il s'est échappé de l'hôpital dans lequel il était, et on l'a retrouvé grelottant de froid au pied du mont Cecchieri, où il y avait des grottes dues à l'extraction de pierre. Et c'est des carabiniers qui l'ont ramassé là. Et Gatti, dans son imaginaire, en a fait qu'il était parti s'envoler de ce fameux mont Cecchieri. Et aussi parce que, et ça c'est historique, Léonard de Vinci, qui est aussi cité sur le mont Cecchieri, c'est à cet endroit qu'il a fait voler son oiseau qui, d'après certains, a pour le coup vraiment volé. Ça n'a pas seulement été une chute. Et donc, il l'a lancé sur le mont Cecchieri. Il y a une plaque qui en témoigne. Et donc, voilà comment s'opère l'écriture de Gatti. Il a beaucoup d'affection donc pour Cafiero en tant qu'anarchiste. Parce que c'est pas des anarchistes à système. C'est des gens qui étaient lancés dans une chose. Un peu comme... Il a presque autant de sympathie pour Saint-François d'Assise en tant que Bernardonnet avant qu'il soit récupéré par l'Église. Et sa mère faisait partie du tiers ordre de Saint-François d'Assise. Elle avait une petite carte.
La
mère d'Armand Gatti. Voilà.
Celle qui était très croyante.
Alors, qui était très croyante, ah ouais. Mais qui, d'un autre côté, par exemple, s'est inscrite, et ça la famille l'a appris très tardivement, s'était inscrite à un parti d'extrême gauche en Italie à la fin de sa vie en disant « si on veut faire quelque chose contre les riches, il faut leur faire peur ».
Ah, ça alors, et la fin de sa vie, c'était à peu près quand?
Alors ça, je suis un peu perdu dans toutes ces dates, mais c'est pas si lointain que ça quand même. Hein. On est peut-être dans les années 90, quoi, par là.
Bon, bah écoute... Je te remercie, Jean-Marc Luneau, c'était vraiment super. C'était la deuxième émission sur les trois que j'ai prévues cette année autour d'Armand Gatti. La prochaine, ça sera avec Stéphane, mm-hmm. son fils, et ça sera le 2 octobre, et ça sera la 98e émission Flemmardise. Là, c'était la 97e déjà. Et je vais mettre un tout petit peu de...
Écoute, je te remercie moi aussi de m'avoir invité.
Ah ouais, c'était vraiment super. Un tout petit peu de Cécile Chaminade et ensuite j'embrayerai directement avec le vrai indicatif cette fois qui est Angélique Ionatos, Rossillo, elle chante Frida Kahlo. Allez, au revoir.
Ρωσίο εν λας μόνος Ρωσίο αγωδάς δαλ σιέλο τιέρα μία η σόλο λα ειν μένσα μαρέα λας εστρέγιας όλες νο δέχες σε διέντο αλάρμο Tanto te amo, lo que fue, fue para siempre, κλοκέ και δρασών λασαραΐσες και σε ασώμαν τρανσπαρέντες τους φλόρες οι αδάνσους κολόρες. Σε ασώμαν τρανσπαρέντες τους φλόρες οι αδάνσους κολόρες. Los labios del sueño olvido de palabras, los dedos del viento. Soy el árbol del que eres sol. Rocío en las manos, Rocío, agua del cielo, tierra mía y sol. La inmensa marea, las estrellas hoyas, no dejes sediento al árbol que tanto te ama. Lo que fue, fue para siempre, lo que queda son las raíces, no dejes sediento al árbol que tanto te ama.
Et dans 5 minutes, le club Ferré.
L'air de rien, juste une ankylose. vue pas pris dans la marge ou dans le maquis, et sans flafla et sans chichi. Mourir en grand seigneur, Maxims et 10 sacs aux chasseurs. Mourir comme on oublie son ombre au vestiaire de la nuit. Mourir comme en passant, en dansant la gigue, en dansant au bal du soleil et du vent. Mourir comme on s'en va, comme ça, sans désir d'au-delà. Et droit dans ses rites, mourir dans un éclair sur un dernier saut solaire et pleine page un dernier vers.
Suis-je si vieux, marin sans mer, toutes les révoltes éteintes achèveront de charbonner comme cet amas de vieux pneus. Marin sans vent, il faudrait se battre pour des causes défuntes, les causes mortes, l'époque. Suis-je déjà vraiment si vieux? Ce bijou, ce soleil levant, marin, souviens-toi, c'est ton âme, battue d'averse, c'est ton âme, cette joue propre de vent. Il rêvera en couleur celui qui aura bu dans la flamme. On se jouait des points cardinaux, des peurs et des quatre éléments. Il y avait aussi, marin, ces lettres peintes sur des toiles, belles comme les lèvres des filles peintes blanches les dents. Nous attendions bateaux échoués, mais des désirs éperdument tendus. Souviens-toi, et des pleurs de tendresse tissés pour voile. On a trahi très peu, et puis on a très peu laisser filer. On fait du cabotage aller, on fait quand même sa carrière, mais il y a des tempêtes dans le calme plat des derniers vers, et des soleils couchants intraitables qui vous feraient chialer.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sur le 89.4 FM et www.radio-libertaire.point.
Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Je propose de temps en temps aux auditeurs et auditrices de l'émission de venir nous parler de leur Léo. de leur goût pour certaines chansons, de souvenirs liés à certaines autres, du plaisir à la découverte de son œuvre, de ce que Léo leur inspire, des élans créatifs, l'envie de découvrir des poètes, du plaisir, de la nostalgie, de l'espoir, de la révolte, de l'anarchie, de l'agacement, pourquoi pas. Bref, de la manière dont Léo et son œuvre vivent encore en eux et en elles. Et il faut dire, jusqu'à présent, ces appels n'avaient pas abouti, pour différentes raisons du reste. Pourtant, cette émission, Le Ferré Club, est née suite à des témoignages d'auditeurs et d'auditrices recueillis par téléphone ou les réseaux sociaux à mesure des programmes que je consacrais à Léo dans le cadre de mon autre émission Nuit Noire. Ronan, Guillaume, Xavier, Laurent, des individus n'ayant rien à promouvoir, mais simplement témoigner de cette particulière connivence avec Léo et son œuvre. Il y a quelques jours, je reçois un mail me disant « Davout, avez-vous reçu mon mail du 2 mai ?» Pas dans mon souvenir. Je consulte la boîte mail et je constate que le filtre à spam a fait du zèle. Le contact s'établit néanmoins, nous échangeons avec la personne qui vient de m'écrire. Elle me dit avoir entendu l'un de ses appels à venir témoigner et qu'à l'occasion d'un de ses passages à Paris, qu'elle serait ravie de se joindre à nous autour du micro de Radio Libertaire. Ce jour est venu. Bonjour Myriam.
Bonjour Davout.
Ravie de te recevoir dans le studio de Radio Libertaire.
Je suis très contente aussi, un peu impressionnée, émue, je pense.
Nous allons donc passer ce moment ensemble autour de l'œuvre de Léo. Veux-tu te présenter en deux mots ?
Aujourd'hui, je peux dire que je suis poète. Voilà, j'ai publié des livres et en fait, je passe mes journées à écrire et à lire des poètes que j'aime, qui me transforment. En fait, l'écriture me transforme. C'est une transformation permanente. Et Léo en a fait partie à un moment aussi.
C'est de cela dont nous allons parler au cours de cette émission. Dans nos échanges, très vite, tu m'as parlé de chansons en particulier. Je t'ai proposé de construire cette émission autour de ces chansons. Je vais donc, d'une certaine manière, te laisser tracer le chemin de cette émission. On va cependant partir de Léo, bien sûr, et de cette question que je pose traditionnellement en début d'entretien. De quelle manière est-ce que tu définirais Léo à quelqu'un qui ne le connaît pas ?
Bon, je ne vais pas faire la surprise, hein. J'étais préparée à cette question et pour le dire aussi à tout le monde, comme je suis plus à l'aise avec l'écriture, j'ai noté un petit peu mon fil d'intervention d'aujourd'hui, donc j'espère que ça ne va pas être trop monotone ma voix et surtout coupe-moi à tout moment dès que tu as des envies, des réactions, des questions, je répondrai avec plaisir à côté de mon petit fil. Léo est auteur, compositeur, interprète, poète. Ça me semble important de mettre toutes ses compositions. Et puis, il chante avec son cœur. Et on adore ou on déteste. Ouais. C'est ce que j'observe. Et pour moi, je dirais que c'est un génie. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Voilà. En poésie, j'ai un peu aussi comme ça un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Bernard Noël,
ouais,
qui est décédé il y a peu. Et voilà, c'est des personnes, elles sont tellement incroyables qu'il n'y a pas de mots pour ça. Et quand ils disparaissent, bon, l'œuvre reste heureusement, mais c'est un grand manque, ouais.
Bien sûr. Le génie de Léo, tu le places dans la poésie, j'ai l'impression, autant que dans la musique ou dans l'interprétation.
C'est un tout.
Ouais.
C'est pour ça que c'est pas évident. Je sais pas trop comment d'ailleurs en parler de ces chansons, parce qu'en fait, je me dis, bon, tu vas parler des paroles, puis en fait, quand je les lis, je dis, bah non, il y a des choses, mais c'est pas ça, c'est tout. C'est-à-dire, c'est la musique, c'est le ton sur lequel il le dit, c'est la voix avec laquelle sa voix, mais c'est aussi l'intonation, son état aussi, émotionnel. Et du coup, c'est vraiment un tout. Et c'est pour ça que quand je dis je le présente, c'est tout ça. Parce que s'il n'y avait pas